Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 130. Le vrai épisode 130 parce que l'épisode 130 devait porter à la base sur l'IndyCar qui a d'ailleurs commencé à Saint-Pete en même temps que la Formule 1, mais les joies de l'interne, les joies de la technologie ont fait en sorte que j'ai dû jeter ça à la poubelle, un fichier corrompu. Je peux pas tellement traiter ça, donc too bad, mais au moins on est de retour et cette fois-ci moins de problèmes. Alors cette semaine on va parler de Mercedes et de leurs problèmes, ainsi que de Jenson Button qui s'en va en Cup Series pour la première fois. Mais avant tout, j'ai un édito assez spécial. Il y a de cela 5 ans, à midi heure exacte, et je l'ai encore sur mon ordinateur, sur mes ordinateurs, je créais un projet que que j'avais en tête depuis plus de maintenant 10 ans. Ça s'appelle le bulletin F1. C'était le nom tel quel. Un blog où je pouvais parler de mon amour de la Formule 1. À la base, c'était supposé être un retour sur les Grands Prix, mais j'ai décidé d'ajouter quelques textes pour éviter de tellement avoir un texte seulement sur les Grands Prix. Et ensuite, un an plus tard, ça a été la création du podcast. Alors, c'est un projet qui, après 2 tentatives, a finalement vu le jour. Il n'est peut-être pas là, mais je veux saluer Brian Remet qui m'a aidé beaucoup dans cette première année, mais aussi dans la première année du podcast en 2019. Vous l'entendez peut-être moins, mais c'est parce qu'il est paramédic dans la vie de tous les jours, donc il est pas mal occupé ces temps-ci, mais il reste quand même, il fait partie de nos discussions. Et dire que ce projet, non seulement je pensais le faire seul, mais ensuite c'est passé à 2, ensuite 3 lorsque Marc-André est venu au milieu de l'année 2019, ensuite 4 lorsque Ana Maria Mercado López est venue en 2020 avant que le monde ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, Corona. Et ensuite, lorsque j'ai dû faire une petite pause de podcast, il y a celui qui est avec moi présentement dans cet épisode, Jean-Sébastien Barbeau, qui s'est joint. Et Jean-Sébastien, je le connaissais depuis Twitter à cause de Soccer et de Pierre Mayotte qui vient participer tel Dominique Michel au bye-bye du bulletin GP à la fin de l'année. Donc, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce projet qui était vraiment d'avoir une plateforme pour parler de Formule 1, devienne ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il reste petit, mais c'est mon bébé. C'est mon bébé, je suis fier de pouvoir finalement parler de Formule 1 avec des personnes qui partagent la même passion que moi. Ce que je n'ai pas eu, en fait, dans les 20 premières années de ma vie, à part mes parents et quelques personnes du service de garde. Et malheureusement, j'ai même emmerdé mon frère en parlant trop de Formule 1 que je l'ai poussé à le faire détester ce sport en 2005. Donc, ouais, finalement, avec les réseaux sociaux, ça m'a permis de pouvoir parler de Formule 1, de discuter de Formule 1 avec d'autres mondes, soit qu'il aime un peu ou beaucoup, mais de pouvoir parler de Formule 1 sans que je me fasse dire « Abdou, arrête de parler de F1 et tout ça! » Fait que c'est une bonne chose. Et je veux vous remercier à toutes et à tous de votre soutien, que ce soit depuis les débuts du bulletin F1/bulletin GP, que même si vous écoutez cet épisode ou me suivez depuis le premier Grand Prix, peu importe, je suis super content de de pouvoir parler de Formule 1 avec vous. Et j'espère que ce projet de tout cœur va continuer, peut-être même vers un 10 ans. Et qui sait, peut-être Fernando Alonso va rouler encore à ce moment-là. Donc, merci infiniment. Puis merci, je vais le dire à toutes et à tous, Brian Winmet, Marc-André Fortin, Anna-Maria Mercado-Lopez, Jean-Sébastien Barbeau, Julien Légaré-Turcotte, Émile Légaré-Turcotte, Michael Marcotte, Carl Sousa-Teixeira, Charles Manta, François Carignan, et même ceux qui sont venus, Félix Bernier, Jean-François Chabot, Marie-Claude Montembeau, Kevin Laramé, Pierre Mayotte, et même Mélanie Perruti, la sœur de Jules Bianchi, qu'on a eu la chance de parler avec lors de l'épisode 17 pour honorer la mémoire de Jules. Quoique j'aurais aimé que cet épisode soit meilleur, personnellement, mais c'est une belle joie de pouvoir parler avec un pilote que j'ai bien aimé, que j'aurais aimé, qu'on aurait tous aimé avoir une carrière exceptionnelle. Donc, à toutes et à tous, que ce soit au Québec, en France ou partout où vous nous écoutez, où vous m'écoutez avec tous mes blabla, un énorme merci et qu'on continue toujours de rouler avec le bulletin GP, peu importe ce qui se passe. Voilà, donc c'était mon éditorial de 6 minutes. Et j'accueille Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou, comment ça va?
Ça va, édito. Ça va bien, toi?
Oui, ça va, ça va.
Ah, écoute, je le dirai jamais assez. Merci à toi d'être présent au Bulletin GP. C'est toujours apprécié d'avoir...
C'est toujours un plaisir d'être au balado pour parler Formule 1 et autres.
Ouais, et autres aussi.
Et parfois autres.
Mais on va se concentrer surtout de Formule 1 et de Mercedes, parce que sautons tout de suite sur le vif du sujet. Là, on se prépare pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Et ça va être une occasion pour Mercedes d'oublier en fait un Grand Prix relativement compliqué avec Lewis Hamilton qui a fini cinquième, correct, mais à plus de 50 secondes de Max Verstappen, vainqueur de la course, et George Russell qui finit septième derrière Lance Stroll qui se remet de ses blessures pré-saison. Et là, en plus, entre Bahreïn et Arabie Saoudite, Mercedes a dit que, via Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie, qu'il y aura des changements radicaux à la W14 d'ici les prochains Grands Prix. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur leur chaîne YouTube. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, Jean-Sébastien.
Oui, il y a beaucoup de travail à faire, puis c'est difficile de déterminer par où il faut exactement commencer. Selon la vidéo d'Andrew Shovlin, visiblement, d'un point de vue aérodynamique, c'est un problème. Mais bon, quand on dit que c'est un problème aérodynamique, il faut juste dire que c'est des fameux pontons, les sidepods qui sont le problème. On a beau changer ça, mais c'est juste un élément parmi tant d'autres. Donc, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps en soufflerie. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les bonnes choses. On est limité aussi en certains temps en soufflerie pour Mercedes. Oui, ils ont l'avantage par rapport à Red Bull et Saint-Denis, mais il y a quand même énormément de travail à faire. Dans les articles qu'on a vus dans les derniers jours, on parlait notamment aussi de la dégradation des pneus. Ça, au moins, ça peut s'annuler assez rapidement parce que Bahreïn, c'est quand même une exception dans le championnat. Le revêtement est assez abrasif. Donc, du moment qu'on va arriver à Jeddah en fin de semaine prochaine, l'excuse sera moins là. Donc, ça se peut que le 50 secondes devienne peut-être un 40, mais ça reste quand même une sacrée claque. Il y a beaucoup de travail à faire chez Mercedes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire chez Mercedes.
Oui, et surtout aussi que Mercedes a continué le concept de zéro ponton pour 2016. Bon. Il y en a un petit peu comparé à 2022, mais c'est un concept qui reste encore de base sur la voiture cette année. Au moins, ils ont réglé leur marcinage qui était leur talon d'Achille en 2022, mais elle a été battue par Aston Martin, dont, pour plusieurs, on souhaite que la hype se continue d'ici les prochains Grands Prix, avant même la première course en Europe. Donc, et selon le Autobotor und Sport, le magazine allemand, l'écurie est en train d'étudier deux concepts, mais devra prendre une décision très rapide parce que sinon, c'est ce qui pourrait déterminer le restant de la saison.
On les connaît, ces deux concepts?
Pardon?
On les connaît, ces deux concepts de voiture?
Avec ou sans ponton?
La solution sans ponton, visiblement, ne fonctionne pas si on compare à les 9 autres voitures sur le plateau. Évidemment, Mercedes a quand même terminé 3e l'année passée au championnat, donc c'est un peu trompeur de dire que la voiture sans ponton est exécrable, mais est quand même en dessous du niveau de ce qu'on pourrait attendre de Mercedes. Il va peut-être falloir mettre des pontons, il va peut-être falloir retravailler l'aérodynamisme, il va peut-être falloir retravailler tout le fond plat, la sortie d'air, les écopes de frein, tout. Il faut essayer de tout revoir. Donc, ça rappelle un peu comme les années de McLaren où, après les Fast Championnats de 98-99, quand McLaren est un peu perdu et essayait de faire des pierrots dans partout dans la Formule 1 de toute façon sur RDS, quand ils essayaient des concepts avec des matériaux UBU un peu très sophistiqués, là, donc ceux qui sont dans les derniers numéros du tableau périodique des éléments, essayaient de faire des moteurs avec des matières qui tenaient pas, qui étaient juste extrêmement dangereuses. On se souvient d'une McLaren qui était un peu surnommée la Killing Machine parce qu'elle était extrêmement dangereuse. Donc, c'est des voitures qu'on supprime en plein milieu de l'année puis on crée une nouvelle chose pour pouvoir se sauver la face. L'avantage de Mercedes, c'est qu'il y a 23 Grands Prix, donc il y a un potentiel de reprise de points qui est quand même assez conséquent. Par contre, ça fait beaucoup de Grands Prix où ça sera de la soupe à la grimace, où ça sera des reconsidérations constantes, où il y aura une pression sur l'ensemble du personnel de Mercedes, tant à Brackley que sur le circuit, que pour Toto Wolff, que pour les pilotes. Et on sait comment une personne comme Toto Wolff, Lewis Hamilton, et on découvre de plus en plus comment George Russell peuvent être des trois et très vocaux. Donc, la dissension comme ça, les disputes à voix haute, n'aide pas à l'ambiance de l'équipe. Donc, oui, ça va amener beaucoup de difficultés au cours de la saison. Et on en parlait l'année passée déjà. Est-ce que c'est la fin d'un cycle pour Mercedes? Parce qu'une année, on se dit, ouais, ça se peut, on l'a échappé, c'est pas grave. Au bout de 2 ans en Formule 1, c'est un peu la fin d'un cycle, là. Il y a beaucoup de cerveaux qui partent. Le directeur de Alfa Romeo est un ancien Mercedes. Non, le patron de Williams est un ancien de Mercedes. Donc, on commence à avoir une fuite en avant. Là.
Et surtout aussi, d'autant plus que là, il y a eu question d'une possibilité de revoir James Allison vraiment s'impliquer un peu plus à temps plein chez Mercedes pour aider l'écurie à ne pas rater leur saison. Parce qu'actuellement, le directeur technique de l'équipe, c'est Mike Elliott. Et en gros, en fait, Allison, qui non seulement s'occupe de toutes les opérations de Mercedes F1, mais aussi de Ineos Britannia, qui participe à l'America's Cup, la plus grosse compétition de voile au monde.
La plus vieille compétition de sport au monde, presque.
Et oui, et en plus.
Faut pas l'oublier, c'est une très vieille compétition de sport qui reste toujours un peu dans l'ombre par rapport au reste du sport, mais comme elle se déroule aux 3-4 ans, c'est quand même assez technique, mais oui.
Donc, ça prend, donc justement, pour James Allison, se préparer pour l'America's Cup, ça prend de son temps. Et là, en plus, ajoute à ça, possiblement retourner à temps plein avec Mercedes pour épauler Mike Elliott, ça ne sera pas de tout repos pour Allison.
Ben, la difficulté de James Allison, c'est que j'ai l'impression qu'il s'étale un peu partout. Il y a deux postes. Et ces deux postes-là lui requièrent 100% de son temps. Il devrait être soit complètement chez Mercedes, soit complètement dans le projet britannique pour la Coupe de l'Amérique. Expliquons juste un moment, c'est quoi la Coupe de l'Amérique? C'est la plus vieille compétition de bateaux à voile au monde. C'est l'une des plus vieilles compétitions sportives au monde. Ça se déroule aux 3-4 ans. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, on assiste à des compétitions avec des bateaux extrêmement révolutionnaires. Des bateaux qui... uniquement la quille flotte, le reste du bateau est surélevé et vont à des vitesses allant près à 100 km/h avec un équipage de 6 à 7 à 8 personnes. Et la Coupe de l'Amérique requiert maintenant des moyens technologiques hyper avancés en matière d'aérodynamisme, techniciens de Formule 1 sont souvent sur des projets. Il y a plusieurs années, on avait vu Mike Gascogne, l'ancien de chez Lotus, travailler de Renault pour travailler dans un des projets de la Coupe de l'Amérique. Donc, c'est très difficile. Les équipes sont en train de se préparer pour la prochaine Coupe qui va avoir lieu dans le port de Séville, je pense, pour suivre un peu la compétition. Même si c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné, puis c'est eux qui devraient organiser, ça s'en va en Europe pour la prochaine édition en 2024, je pense, ou en 2025. Mm-hmm. Mais n'empêche, ça requiert du temps de cerveau que James Allison ne peut pas mettre sur la Formule 1. Je comprends bien que Ineos est tout aussi un commanditaire de Mercedes, qu'Ineos veut absolument gagner la Coupe de l'Amérique parce que les Britanniques ne l'ont pas gagné depuis des décennies. Donc, il y a une volonté, mais Allison, il est partout. Ouais. Il est sur deux projets qui requièrent trop de temps. Cela dit, James Allison s'est gagné en Formule 1. Il a gagné 11 fois un titre de champion du monde, soit avec un pilote, soit avec un constructeur. Donc, il sait comment développer une voiture. Mais en face, Adrian Newey, lui, ne fait qu'un seul projet, c'est-à-dire une voiture de Formule 1.
Et il est de là, très bon en plus.
Il est très bon, donc. Mais James Allison aussi est très, très bon, ça, on le sait. Mm-hmm. Mais on se trouve devant une situation qui est un peu impossible pour James Allison. Franchement, il faudrait le contrôler puis dire c'est soit un, soit l'autre. Tu peux pas faire les deux. C'est impossible.
Exact. Puis et ce qui fait en sorte que là, ça requiert à Allison, comme tu dis, tout son temps pour se préparer parce que le développement, ça prend du temps. Oui, Mercedes va avoir plus d'heures de roulage en soufflerie, étant donné comparé à Ferrari et à Red Bull en matière de leur classement de la saison 2022. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient au lieu de le gaspiller. Parce que si le gaspilles, ben là, il va falloir tout de suite penser à 2024 et 2025 aussi. Donc, ça prend du temps, mais tu dois aussi prendre une décision rapide. Puis, il y a même Mark Hughes de The Race qui a dit que Mercedes doit comprendre d'où vient le manque de performance. Parce que oui, ça peut être les pontons. Je pense que c'est un problème en soi. Mais il y a d'autres trucs qui peuvent être qu'on ne voit peut-être pas à l'œil nu, mais qui peuvent être des problèmes tout aussi importants que les pontons. Mais on sait que c'est clairement aérodynamique, leur problème, ça c'est clair et net.
Oui, parce que Aston Martin a le même moteur, donc à partir de là, on est capable de voir, il y a des éléments comparables. Après, oui, ça reste l'aérodynamisme, mais bon, c'est facile de dire que c'est l'aérodynamisme. C'est tellement central sur une voiture, il y a tellement de choses qu'il faut reconsidérer. Du moment que tu changes une partie, par exemple, au milieu, il faut que tu retravailles aussi derrière. Donc, c'est un ensemble. Ça se travaille depuis l'avant, puis ça se travaille graduellement jusqu'à l'arrière. Il n'y a pas de one size fits all comme solution. Il n'y a pas une solution qui s'applique pour tout. Donc, ils sont dans le trouble, Mercedes. Ils sont vraiment dans le problème. Ils sont vraiment dans la mouise. Ça va être long. Ça va être difficile. C'est pas une solution que tu trouves la semaine prochaine. C'est pas comme trouver une solution pour le marsouinage comme on a vu l'année passée pour plusieurs équipes qui avaient relativement bien compris. Oui, on comprend que Mercedes a compris certaines choses, se sont améliorées. On l'a vu notamment, il y a eu un changement d'aileron arrière pendant le premier Grand Prix. On le voyait visuellement. Lewis Hamilton qui remercie son équipe malgré les efforts acharnés qu'ils ont fait pendant les deux semaines. Clairement, c'est pas pour la médiocre 6e, 7e place. Là. C'est parce qu'il y a eu un vrai effort qui était fait ensuite. Donc, c'est-à-dire que la voiture partait encore de plus loin que du premier résultat du Grand Prix. Donc, mais une fois qu'on a pu colmater ces problèmes-là initiaux, il reste quand même le nœud du problème. Et le nœud du problème ne serait certainement pas en deux semaines. Il ne serait certainement pas non plus en trois ou en quatre semaines. On est sur des solutions à plus long terme. Et de la soufflerie, ça prend du temps. Puis ça ne veut pas toujours dire que ça fonctionne parce que la soufflerie est assez trompeuse.
C'est vrai. Et justement, tu parlais de Lewis Hamilton. Parlons-en parce que lui aussi a fait un peu les manchettes entre Bahreïn et l'Arabie Saoudite avec ses commentaires à la radio de BBC.
BBC Five Live.
Five Live. D'ailleurs, la BBC qui est un peu dans la chenoute en ce moment, mais ça, on, bon, Mais on oublie ça. Mais il a dit que, en gros, l'écurie ne l'a pas écouté. Il a dit l'année dernière, il y avait des trucs que je lui ai dit. Il y avait des problèmes avec la voiture. Il a tellement conduit de voiture. Il sait ce dont la voiture a besoin. Et inversement, ce dont la voiture n'a pas besoin. Que tout ça, c'est en matière de responsabilité, de dire ouais, écoute, on a. Tu sais quoi? Ben. On ne t'a pas écouté, ce n'est pas la direction qu'on devrait prendre. Et de travailler, par exemple, parler de la balance au niveau des virages, regarder les points faibles. Donc, qu'est-ce que ça... Donc, on sait que ça veut dire, bon, l'équipe ne l'a pas écouté, mais est-ce que c'est vraiment des débuts de signes de tension? Ben, est-ce que c'est lourd de dire ça ou bien...
Ben, y a des signes de tension, ça c'est évident, sinon on ne le dit pas de façon publique. Mais en même temps, tout ce que pense Lewis Hamilton n'est pas nécessairement la solution ou la parole du bon Dieu sans confession. Là. Ça se peut très bien qu'à un certain moment, il se soit trompé et dire que tout ce que j'ai proposé a été refusé ou dire « je sais comment conduire une voiture », ça fait un petit peu Fernando Alonso-esque en disant « moi, je sais plus que tout le monde comment conduire une Formule 1 ». Oui, tu as cette fois le champion du monde, mais il y a des données qui ne vont pas contredire la sensation d'un pilote quand même. Là. Et puis, dans l'époque des années 80, où on se fiait uniquement à ce que le pilote disait, puis les données étaient un peu vues comme quelque chose qui n'avait aucun sens. Aujourd'hui, on peut tellement travailler sur les données. Martin Brundle a toujours dit qu'il préférait conduire. S'il pouvait choisir une époque où conduire une Formule 1, ça serait aujourd'hui parce qu'on peut tellement travailler sur les réglages. On peut aller toujours aller chercher la petite millième supplémentaire alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas parce qu'on allait chercher un gros bloc de 2-3 dixièmes d'un coup puis ça s'arrêtait à tout. Ça s'arrêtait à ça. Alors que là, maintenant, on peut tout faire, on peut aller tout chercher. Donc, dire que Mercedes ne m'écoute pas, ouais, ça rappelle un peu Lewis Hamilton quand il chiale sur les pneus pendant un Grand Prix en disant « faudrait changer les pneus ». Lewis dit « je suis très content, au diable avec votre tactique de course, je préfère rester avec la mienne ». Donc, oui, c'est un coup de gueule. Visiblement, c'est un coup de gueule. Est-ce que c'est de la tension? Probablement, mais c'est une façon aussi pour passer un message pour fouetter les troupes.
Et est-ce que c'est aussi le Lewis Hamilton de McLaren 2012? Parce que je ne sais pas si tu te souviens.
Ah, oui.
On est presque, je ne veux pas dire qu'on est presque dans la même situation, mais on est loin d'un Lewis Hamilton qui publie les données sur Twitter à la vue de tout le monde et qui encore là, à l'instar de 2012, dans une négociation contractuelle parce que son contrat se termine à la fin de la saison.
Tout à fait. À la différence, cette fois-ci, il doit y avoir des clauses qui doivent lui interdire de publier des données sur les médias sociaux alors qu'à l'époque, ça ne devait sans doute pas exister. Ça, c'est déjà une grosse nuance. De un. De deux, oui, modus operandi, oui, bis repetitant dans son cas, c'est un peu le modus operandi sans doute. Mais ça fait 10 ans qu'il est chez Mercedes.
Mm-hmm.
Il y a un moment donné où sans doute qu'on a fait le tour du jardin aussi. Mais le problème, c'est que si Lewis Hamilton s'en va, il va où?
Retraite, peut-être.
Ben non, c'est disons qu'il va dans une autre équipe.
Mm.
Il va où?
Ouais.
Faisons le scénario fiction, là. Certainement pas chez Red Bull.
Ah, hell no.
Parce que Max va mettre son veto, de toute façon.
Tu veux pas avoir un Silverstone fratricide?
Oui, voilà. Ferrari?
Ben, si Charles Leclerc commence à cette année, maybe, ouais, mais ce serait pas. Je serais énormément.
Oui, mais c'est lui qui est le corporate de Ferrari, donc il va certainement pas partir. Mm. Aston Martin, Stroll, indélogeable. Ouais. À mon sens. Fernando, il est là pour... il est très content d'être là parce qu'il peut faire des bons résultats.
Mm-hmm.
Puis après, ben...
Ailleurs.
McLaren, non.
Mm-hmm.
Haas, non.
Pas assez
d'argent. Alfa Romeo, en attendant 2026, ça fait long.
Ouais.
Alpine, non.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui reste? Quelle équipe
Williams?
La blague, évidemment. Évidemment. Alpha Tauri, la blague. Donc, non, il peut aller nulle part.
Ouais. À moins que ce soit dans mon équipe que je voudrais créer un jour, mais ça...
Ah oui, est-ce que tu as 1 milliard à apporter sur la table tout de suite, juste pour avoir des droits pour entrer en Formule 1? Non, donc exact. À partir de là... Non, Lewis Hamilton veut rester, on le sait, il est en bonne forme, il se voit encore rester 5 ans. Toto Wolff le disait encore cet hiver qu'il y a encore plusieurs bonnes années devant lui. Il ne peut qu'aller à un seul endroit, c'est Mercedes.
Mm-hmm.
Exact. À moins qu'il y ait un parachute doré pour une équipe qui l'attend et qui est prêt à aligner l'argent. McLaren en est très bien capable avec ce qu'ils ont fait, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont assez de capitaux pour pouvoir se payer un Lewis Hamilton. Mais n'empêche, Hamilton va rester chez Mercedes, quoi qu'il advienne. Il ne va pas partir. Il ne partira certainement pas. Donc, cette rumeur de « Oh, il va quitter parce qu'il ne s'entend pas bien », je ne crois pas une seconde. Il va rester.
Ouais. S'il décide de quitter, c'est...
S'il quitte, c'est parce qu'il va quitter la Formule 1, point.
C'est ça. C'est la seule...
Mais il ne va pas quitter la Formule 1.
C'est « Should I stay or should I go » pour reprendre.
Non, parce qu'il est encore très, très bien payé par Mercedes.
Ouais, puis il est avec Mercedes depuis qu'il a 13 ans, donc depuis 98. Exact. Donc, c'est peut-être là aussi où... j'ai peur que la saison 2023 soit aussi... Peut-être un reflet de la frustration d'Hamilton qui veut vraiment aller chercher son 8e titre coûte que coûte. Alors, si ce n'est pas l'année dernière, ce n'était pas le cas. Cette année, si ça continue encore, on oublie ça. Alors, pour Lewis, même s'il se sent encore d'attaque, le temps presse, parce que George Russell, de l'autre côté, commence vraiment... Bon, on l'a vu l'année dernière, mais...
Bon, on le savait que George Russell avait un talent fou, on le savait, ouais. Ça. La fois où il a remplacé Hamilton au Grand Prix de Sakhir, on le savait.
Oui.
Mais combien de fois dans la carrière de Lewis Hamilton, Lewis a eu des saisons difficiles? Excluons même la première. Il a fait un super résultat sa première saison en 2007, mais excluons cette saison-là. Combien de fois dans la carrière Lewis Hamilton a eu des voitures difficiles où Lewis Hamilton a eu une passe à vide? Un ou l'autre?
Je dirais 2009, en début de saison. Puis je me souviens aussi, au Grand Prix de Turquie, il avait dit à la radio que cette voiture se conduisait comme un bateau.
OK, attends, je vais reformuler ma question alors. Ouais. Quelle est la plus grande période léthargique de Lewis Hamilton en Formule 1?
2009 et... Je dirais 2009 et 2022.
Non, la plus grande, pas les plus grandes, la plus grande. Est-ce que c'est 2009 ou c'est 2022, en fait? Allons en même encore plus précis.
Je dirais 2022. 2022.
Lewis Hamilton n'a jamais connu ça dans sa carrière de sport motorisé.
Ouais.
C'est la première fois qu'il patauge.
Ouais.
Alors qu'il y en a plein d'autres qui ont déjà eu ce genre de sentiment-là.
Mm-hmm. Bam.
Dans des équipes inférieures où est-ce que rien va, on n'arrive pas à comprendre la voiture, ça ne marche pas. Les résultats sont bons, là, pourtant. 3e au championnat constructeur, c'est pas vilain, là.
Non, c'est ça.
Gene Haas, lui, vendrait sa mère pour pouvoir finir 3e au championnat constructeur. On le sait. Gunther Steiner aussi. Surtout Gunther Steiner. Juste pour pouvoir faire le beau face à Gene, on le sait, là. Il y a une drôle de relation de ces deux-là. Bref. Mais quand même, Lewis Hamilton est dans une phase avide. Il n'a jamais connu ça dans sa vie.
Ouais.
Il ne sait pas comment dealer avec ça. Il ne sait pas comment dealer avec la défaite. Il ne sait pas comment dealer dans le trafic. Il sait juste gagner. C'est très perturbant pour un amateur de sport voir un grand être dans une situation très difficile. On dirait un Tom Brady.
Ouch. Mais c'est vrai.
C'est ça quand même. Donc, ce genre de réflexion-là me fait toujours penser, est-ce que, et là on sort vraiment du problème de Mercedes, est-ce que un sportif de haut niveau comme celui-là est nécessairement le GOAT? Un GOAT est censé être bon dans à peu près toutes les situations.
C'est vrai. Mais je repense aussi à Michael Schumacher aussi, ses premières années avec Ferrari aussi, c'était...
Ça a pris du temps. Ça a pris 3 ans et demi.
Ça a pris 3 ans et demi.
Il a passé proche en 97.
Ouais.
90-99, ça n'a pas marché. Ben, en même temps aussi, une jambe cassée, donc oui, c'est sûr qu'on annule vite, mais 2000, boum, ça a parti.
Oui. Donc.
Mais ça a pris du temps. C'est un projet à remonter une équipe.
C'est ça.
Aujourd'hui, pas beaucoup de pilotes qui auraient signé 3 ans et demi pour dire ouais, dans 3 ans et demi, là, on va être. Dans 3-4 ans, là, on va être champion du monde.
Mais en même temps, Hamilton a quand même aidé Mercedes dans ce projet. Même, je dirais même assez tôt en 2013, parce que cette voiture. Même si on était entre la fin de l'ère V8 et le début du V6 turbo hybride,
oui.
Hamilton a quand même continué la fondation que Michael Schumacher avait posée.
Il savait qu'il y avait un projet.
C'est
là,
ça.
Le projet, c'est une vengeance.
Mm-hmm.
C'est pas un projet, une vengeance.
Ouais.
Parce que c'est pas la même chose que gagner.
Aussi.
C'est pas la même chose.
Et surtout quand tu as dû te battre contre celui qui était ton meilleur ami en plus, Nico Rosberg aussi. Et ensuite, bon, quand Rosberg est parti, ben là, il a eu le tout. Donc entre 2017 et, on va dire, 2021-ish, aussi, là, ça a été le moment où Hamilton a fleuri chez Mercedes.
Ouais.
Donc,
je pense pour Lewis Hamilton, l'émotion n'est pas canalisée de la bonne façon, puis c'est pas la bonne émotion qu'il doit utiliser. Dans un sentiment de vengeance, ça n'aide pas à essayer de développer une voiture.
Mm-hmm. Donc, là-dessus, oui, ça
pourrait. Je pense qu'il y en a plusieurs aussi chez Mercedes qui sont dans cette attitude-là, mais ils sont limités parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution à la voiture. Ils persistent à essayer de faire cette solution-là qui n'a pas l'air de fonctionner, qui est. Notamment l'absence de ponton et des choix aérodynamiques très, très poussés. Ça rappelle beaucoup McLaren dans les années 2000.
Ah, tiens, justement, Mercedes, tiens, on va aller parler. On va retourner à Mercedes. Leur lettre ouverte aux fans samedi, c'est un bel exercice de communication, ça.
Oui, c'est de la communication. C'est pas de la communication de crise. Hein. Si vous pensez que ça, c'est de la communication de crise, ça l'est pas. Les fans de Mercedes sont étranges quand même. Enfin, étranges, on s'entend, là, il y en a sans doute plusieurs qui écoutent, là, mais c'est la relation que Mercedes a avec ses fans et inversement est assez unique en Formule 1 et assez unique dans le sport. On sent vraiment que c'est, dans le sens anglophone, la façon dont je vais le décrire, puis on peut faire des liens facilement avec d'autres sports, avec d'autres petites équipes, c'est une nation. Un peu comme les fans de lutte ont avec la WWE, par exemple, ou certaines équipes de football américain, que ce soit les Bills Mafia, par exemple, ou avec les Bills de Buffalo. Mercedes a une relation très particulière, très axée sur, non pas l'équipe, mais les membres qui forment l'équipe. Ferrari, c'est pas les membres qui forment l'équipe, c'est l'équipe en tant qu'elle-même.
Ouais.
C'est la Scuderia.
Mm-hmm.
Chez Mercedes, tu enlèves Toto Wolff, tu enlèves Lewis. Je ne suis pas sûr qu'il y a le même esprit de corps chez les fans de Mercedes. C'est vraiment une relation épistolaire entre un groupe et un autre qui est beaucoup plus large que les fans. Il y a, ça dépasse le simple esprit. À Montréal, au Québec, quelques personnes on trouve dans les Canadiens de Montréal, ça sera toujours le Canadien.
Ouais.
L'équipe peut être mauvaise, l'équipe peut être bonne, l'équipe va être souvent mauvaise, ça va rester ça. Mais il y a un esprit de corps qui se tient autour de quelques personnes pour montrer leur solidarité. Il y a une espèce d'élément qui rassemble, qui dépasse la simple équipe. C'est des personnes en particulier. Ils essaient de, sans doute, il y a vraiment une opération de communication pour dire, regardez, on reste ensemble, mais je ne sais pas à qui, en fait, cette lettre-là s'adresse. Je ne pense pas que ça s'adresse nécessairement aux fans de Mercedes qui savent que Mercedes sait qu'ils travaillent. J'ai l'impression que c'est plus comme une lettre pour dire aux autres comme on est encore là, en fait.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que ça s'adresse vraiment à ses fans. Les fans le savent. Ils ne sont pas dupes. Ils sont assez intelligents pour savoir que Mercedes travaille quand même.
Exact. Pour nous refaire un peu... 2022 2.0 où justement peut-être à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne ils vont être dans le coup pour gagner des courses.
Ouais.
Mais il va falloir faire attention à Aston Martin parce que si la hype est vraie, cette équipe peut causer ben du trouble en 2023. Donc, Mercedes doit rester sur leur garde. Et on ne sait pas aussi qu'est-ce qui adviendra avec Alpine. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, je pense la lettre de Mercedes, personnellement, c'est effectivement un message. C'est pas de la crise, mais c'est juste pour dire prenez votre mal en patience. Il va y avoir des épisodes tortueux en début de saison. Mais ne vous en faites pas. On va revenir dans le coup. Vous nous connaissez. On n'a jamais baissé les bras et ce ne sera certainement pas le cas en 2023. Donc, mais jusqu'à quel point il va falloir concéder, ça, c'est à voir peut-être lorsque le premier tiers de la saison sera complété. Donc,
à Montréal.
Justement, à la maison. Notre maison. Notre maison. Pas chez Mercedes. Donc, tiens, c'est moi, je pense pas qu'il faut paniquer tout de suite du côté de Mercedes, mais je pense que ce Grand Prix au Bahreïn, bien que ce soit un Grand Prix atypique, que ce soit la première course de la saison, c'est aussi un wake-up call. Donc, il ne faut pas baisser les bras, que les pilotes doivent être aussi de connivence avec les mécanos, avec Toto Wolff aussi, parce que oui, je suis sûr qu'il y a quelques tensions. Ça, on ne le saura pas, on n'est pas Netflix, mais il va falloir faire attention de ne pas dévier sur le processus de cette saison 2023. S'adapter surtout.
Mais encore une fois, est-ce que les deux premiers Grands Prix sont un révélateur ou sont une fausse impression du vrai talent de Mercedes? Parce que Bahreïn, le revêtement, il est vraiment pas favorable à eux. On l'a compris assez vite. Mm-hmm. Ensuite, Arabie Saoudite, Jeddah, c'est une exception en tout point sur le championnat, sur tout le calendrier du championnat. Le circuit n'a rien à voir avec d'autres choses qu'on a pendant l'année. Circuit venteux, extrêmement rapide. C'est fait pour être sur une ligne droite. Les freinages sont assez compliqués à gérer. Donc, c'est un peu une exception aussi. Est-ce que le championnat va être clairement établi à partir de Melbourne, en fait, ou on peut déjà considérer Arabie Saoudite comme étant un Grand Prix, disons, à la régulière, ou même Bahreïn, en fait?
Ouais.
Parce qu'il est où le vrai point de comparaison? C'est plutôt ça, ma question, en fait.
Et d'autant plus aussi que le Grand Prix d'Espagne est beaucoup plus tard dans la saison. Tu sais, c'est en juin.
Oui, puis ça, on dit que c'est le benchmark, ça.
C'est ça. C'est le Grand Prix benchmark, parce que c'est exactement un circuit qui est révélateur avec de longues lignes droites, de virages médium, courts, lents. Donc,
est-ce qu'on a un Grand Prix révélateur avant Barcelone? Est-ce que c'est Melbourne? Est-ce que c'est Arabie Saoudite? Est-ce que c'est Bahreïn?
Je ne pense pas que ces trois-là font partie parce qu'ils sont très différents de leur genre, surtout que Jeddah et Melbourne sont des circuits urbains. Baku aussi, Miami. Ensuite, arrive à Imola sur un circuit qui est étroit. Ensuite, tu as Monaco.
Difficile à dépasser. Monaco en plus, c'est l'exception.
Oui. Donc, Espagne, ça risque d'être le moment où on va déterminer peut-être où se trouve, Mercedes dans la hiérarchie. Alors,
mais là, c'est pas tant parce qu'on va être rendu au circuit benchmark qu'on va avoir fait le quart du championnat.
C'est ça. Donc, ça va être le plus vite possible, d'autant plus qu'il y a la pause entre Melbourne et Baku. Donc,
oui, il y a un gros 3 semaines, hein, parce qu'on devait avoir le Grand Prix de Chine, puis il n'a pas été remplacé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un long trou, là.
Donc, tu sais, les premiers développements vont arriver à ce moment-là au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc, oui, ça va prendre du temps avant que ça fonctionne. Mais moi, je pense que Espagne va nous donner peut-être là où Mercedes se situe dans la hiérarchie 2023. Donc, mais je dois dire, le temps presse pour Mercedes. déjà en partant, parce qu'on sait jamais ce qui peut advenir. On pourra avoir, par exemple, encore une fois, Lewis Hamilton qui se fait éliminer en Q1 à Jeddah comme l'année dernière. Comment on peut avoir, par exemple, les Mercedes se retrouvant dans le top 10 en qualification, puis ils marquent des points encore. Donc, impossible n'est pas Napoléon.
Tout à fait. Et après, pour Mercedes, c'est quoi un bon résultat? C'est juste gagner, en fait.
Ouais. Mais il faut aussi qu'ils apprennent à relativiser leurs attentes aussi. Ils l'ont déjà fait, mais restez réalistes.
Ouais, ça, c'est un mémo qu'il faut passer à Lewis Hamilton dans ce cas-là.
Ouais, surtout ça.
Et George Russell encore plus.
Ouais, c'est vrai. Exact. Donc, c'est à suivre pour Mercedes. Donc, voyons voir ce qu'ils vont faire en Arabie Saoudite, si ce sera meilleur ou, je veux dire, si c'est pour le meilleur ou pour le pire pour Mercedes. On va sortir un peu de la Formule 1, mais on va parler d'un ancien pilote de F1, Jenson Button, qui va faire ses débuts en NASCAR Cup Series le 26 mars au circuit des Amériques à Austin, avec un autre ancien pilote de Formule 1 et champion du monde d'ailleurs, Kimi Raikkonen, qui lui en sera sa deuxième course dans la Cup Series. Button va rouler dans la voiture numéro 15 de Rick Ware Racing, mais tout l'aspect marketing, promotion va être fait par Stuart Haas Racing. Pardon. Donc oui, Gene Haas et Tony Stewart vont mettre un peu leur grain de sel dans la participation de Button dans 3 courses de la Cup. Donc, Austin, mais aussi, il y aura Chicago, dans les rues de Chicago, pour la première fois dans l'histoire de la Cup Series, et sur le circuit routier de Indianapolis, qui remplace, en fait, le Brickyard 400 depuis quelques années. Donc, et en plus, Button va être commandité par Mobile One, son commanditaire, qui l'a aidé pendant plusieurs Grands Prix, pendant plusieurs saisons de Formule 1. Jean-Sébastien, est-ce que ça te donne le goût de regarder les courses ou bien tu... Juste
non,
pour voir comment...
Non. J'apprécie très peu le NASCAR. À part la Formule 1, j'en regarde très peu parce que j'ai d'autres loisirs et la Formule 1 occupe beaucoup de temps de week-end disponible. Donc, j'essaie de faire autre chose après, mais... J'apprécie beaucoup Jenson Button. Et tu sais comment j'adore Kimi Raikkonen. Et pourtant, je n'ai pas regardé Kimi Raikkonen l'année passée à Watkins Glen. Et je ne le regarderai pas plus cette année, même si c'est Kota, même si c'est un magnifique circuit pour tenir ce genre de course-là. Mais non, je ne le regarderai pas parce que mon intérêt pour le NASCAR est proche du zéro absolu.
Mm-hmm. Moi, je regarderai autant quand je pourrai aussi. Déjà, cette fin de semaine, j'ai regardé la course à Phoenix qui a été remportée par William Byron. C'était une bonne course quand même. Mais j'ai bien hâte de voir aussi comment ça va faire, comment il va se débrouiller. Parce que d'ailleurs, Button a déjà conduit une NASCAR. Il va le conduire dans la Chevrolet Camaro modifiée qui va participer aux 24 heures du Mans, hors compétition évidemment, avec Jimmy Johnson et Mike Rockefeller comme coéquipiers. Donc, vraiment, Button semble vraiment, depuis qu'il est parti en Formule 1, a testé plusieurs autres catégories. Il est allé en DTM, il a fait de la Super GT au Japon avec Honda.
Super GT Japon, ça c'est un naturel parce qu'il a piloté pendant plusieurs années au Japon, donc c'est un retour aux sources.
Exact. Et en plus, il adore ce pays. Il a fait aussi le championnat du monde d'endurance avec SMP Racing, dont les 24 heures du Mans. Il a fait du rallycross. Et évidemment, il est propriétaire de JBXE dans la Extreme E, qu'il a participé d'ailleurs la saison dernière. Donc, depuis qu'il a quitté la Formule 1, il s'est vraiment intégré à participer à d'autres catégories sportives. Donc, et d'ailleurs, Button s'est même... il a même dit que ce qu'il a attiré vraiment vers la NASCAR et qu'il regarde depuis tout petit, ben c'est Days of Thunder avec Tom Cruise.
Oui.
Moi, j'ai pas encore vu le film.
Un bon film de course automobile, dans l'absolu.
Ouais, ben il faudrait que j'aille le regarder d'ailleurs. Ouais, petit aveu. Mais ouais.
Heureusement, c'est pas le film de NASCAR avec Will Ferrell.
Ouais.
Si ça, ça t'inspire à vouloir faire du NASCAR.
Je préfère regarder Cars plutôt que Talladega Nights, personnellement.
Ah, je pensais que tu aurais dit que tu aurais préféré regarder le film sur l'IndyCar avec Sylvester Stallone.
Arc! Arc! Ça, c'est probablement avec un des films de Mike Myers, un des pires films que j'ai regardé à vie.
Quel mauvais film de course automobile.
Ouais. C'est ça, ça me donne. Ça m'aurait donné le goût de bâcher sur l'IndyCar.
Comment il s'appelle encore ce navet-là?
Driven.
Ah, oh, Driven, ben oui, évidemment. Évidemment, Driven. Quel titre minable.
Ouais, et je l'ai regardé deux fois.
Ah, oh, t'as pas honte.
Je sais. Mais écoute, au moins, Button a fait la bonne affaire en regardant Days of Thunder.
Oui, t'as fait.
Et d'ailleurs, j'ai une liste des pilotes de Formule 1 qui ont participé à au moins une course de la Cup Series. Alors, évidemment, on va inclure Kimi Räikkönen avec sa participation au Glen l'année dernière. Évidemment, il y a Jacques Villeneuve qui a non seulement participé j'allais dire 24 ans de Daytona, mais le Daytona 500, puis aussi quelques courses à Talladega.
Oui, mais lui, il a fait les trois divisions du NASCAR.
Oui.
Il a fait le Cup Series, il a fait le Xfinity, ou je ne sais plus comment il s'appelle, puis il a fait le Big One, il a fait le NASCAR.
Oui, exact. Donc, il a tout fait, Jacques. Il a tout fait aussi. Évidemment, sans malheureusement grand succès. Il aurait pu gagner à Montréal, honnêtement. Là.
Oui, il aurait dû gagner à Montréal.
Ouais.
Ouais.
Il y a aussi Daniel Kvyat qui était présent au Glen, l'année dernière. Tout comme Nelson Piquet Jr. 8 ans auparavant, 2014, mais aussi a participé à des courses, à une saison en fait complète en 2013, et a gagné une course aussi. Évidemment, le plus régulier, c'est le Juan and only Juan Pablo Montoya qui a disputé cette saison, qui a remporté une victoire. Je te laisse deviner où.
Oh, j'allais dire naturellement Indianapolis, mais non, pas Indianapolis. Ça doit être un circuit routier, évidemment. Là.
Au Glen.
Au Glen, ben voilà. C'était soit au Glen, j'allais dire soit au Glen, soit Sears Point.
Ah oui, ah, Sears Point.
Enfin non,
c'est un très
ça a changé de nom depuis Sears Point, là, mais bon, ça prouve, mes références de NASCAR remontent n'ont pas été actualisées depuis très très longtemps, en fait.
Et en plus de ça, ben évidemment, on l'a connu ben pour son accrochage avec un camion à Daytona là, et ça a pris feu aussi en 2012.
Yes.
Sinon, évidemment, il y a Mario Andretti qui a gagné le Daytona 567 et la même année, bon, ça compte peut-être pas, mais Jim Clark a fait des essais à Rockingham en Caroline du Nord cette même année-là, mais il n'a jamais roulé dans la Cup. Il y a Leila Lombardi qui a participé au Firecracker 400 à Daytona en 1977. Il y a Vic Alford qui a roulé en Formule 1, qui a participé à trois éditions du Daytona 500 en 69, 71 et 72. Il y a Rolf Stommelen qui a couru pour Embassy Hill, l'équipe de Graham Hill, qui a disputé quelques courses en Cup Series.
Hey, déjà, juste se souvenir de lui, là, c'est déjà juste marquer un point déjà. Là.
Écoute, ça ferait...
Si vous essayez de faire la liste des 12, là,
ouais.
Juste déjà se souvenir de ce nom-là, c'est déjà un point en tant que lui-même.
Ouais, ça, ce serait bon pour le
quiz. C'est un bonus, ça.
Ce serait bon pour le quiz du bulletin GP.
Oui, c'est ça.
Sinon, il y a Ines Ireland qui a participé au Daytona 500 de 1960. 67, puis j'ai écrit 1697, dyslexie. Jesus Christ. Il y a Pedro Rodriguez qui a participé à 5 courses de la COP entre 59 et 71.
Sur 12 ans, super.
Exact. Sinon, il y a Christian Fittipaldi qui a participé à quelques courses de la COP Series, sans grand succès. Et évidemment, de one and only Scott Speed, qui a disputé quelques courses de la Cup Series aussi après son passage tumultueux en Formule 1.
Donc, oui, exact. Et Scott Pete, maintenant, il est où? Là? Il fait il fait pas du rallycross?
Je pense qu'il fait du rallycross, ouais. Et je ne sais pas s'il a été réadmis à iRacing après s'être fait banni. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Attends, c'est quoi cette histoire-là?
Ah oui, ouais, parce que je sais, je me souviens plus c'était quoi, pour quelle raison il a été banni, mais ouais, Speed s'est fait bannir de iRacing pour un certain moment. Donc, ouais. C'est, il n'a pas seulement reçu des coups de la part de Franz Tost, il a aussi été banni par de iRacing.
Oui, en 2019, tu as tout à fait raison, c'est ce que je suis en train de chercher là. Et j'essaie de voir. Ah, il a volontairement crashé sur d'autres pilotes.
Ah bon, donc c'était un rameur. Un rameur. Ouais. Donc, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal ceux qui vont participer. Ceux qui ont participé au moins à une course de la Cup Series. Et Button. Et Button va s'ajouter à cette liste. Et en plus, à Chicago, en plus sur le circuit urbain de Chicago, ce qui va être magnifique. Donc, ouais, j'ai
mais
hâte.
Pourquoi ces pilotes-là ne font pas des circuits ovales? Ils font presque tout le temps du circuit routier. Ça sent le bouchage de trous quand même.
Ouais.
C'est le truc qui me gosse. Enfin, excusez. C'est le truc qui me dérange avec les pilotes de Formule 1 qui vont... faire des gigs, des grands prix ici et là en NASCAR. C'est toujours sur des circuits urbains. Qui tend encore à vouloir démontrer que le pilote de NASCAR moyen ne s'est pas freiné, ne s'est pas tourné à droite.
Mais quoi que, en même temps, c'est juste, je pense, peut-être qu'il y a une peur aussi des circuits ovales, mais si tu te prêtes.
Martinsville, c'est pas censé faire peur.
Non, Martinsville, ouais, parce que c'est un short track racing pour.
Oui. Mais Martinsville, ou même j'allais dire après, Bristol, c'est pas censé faire peur. Mm-hmm. Il y a plein de circuits d'un mille, un mille et demi, c'est pas censé faire peur. Talladega, je comprends qu'il y a une petite raison d'avoir peur. Je suis sûr que parmi les pilotes de NASCAR, tout le monde se sent pas nécessairement le plus sécuritaire, mais.
Et une malédiction aussi avec Talladega aussi, là. Donc.
Oui, mais quand même. Tout le temps sur des circuits routiers. C'est jamais sur un circuit ovale d'un mille ou d'un demi-mille.
Mais tu vois, je pense qu'avec Button, ça pourrait changer parce que lui aussi, il s'était dit relativement intéressé à dans le futur à participer à une saison complète. Évidemment, je pense que ça va commencer dans les catégories inférieures, genre le truck ou bien le Xfinity, et je lui souhaite. Mais au moins, si ça peut lui donner la piqûre, de faire des circuits ovales parce que je dois dire, bon, c'est pas sur. Bon, je regarde très peu le NASCAR quand même, mais des courses comme Daytona, même Martinsville, Bristol, ou bien même, je te dirais, Phoenix aussi, que je commence à apprécier comme circuit, ben, ce sont des circuits qui sont assez bien pour des circuits ovales aussi. Donc, c'est juste de pouvoir s'adapter, mais. Je pense qu'il n'y a rien de mal. Surtout les circuits ovales, ça peut être aussi excitant que des courses sur circuit routier. Quoique je dois dire, les courses à Austin lors les dernières années étaient assez bonnes. Donc, moi, je souhaite à Jensen dans le futur qu'il puisse s'amuser en NASCAR. Que si les trois courses qu'il a faites qu'il va faire, en fait, autant à Cota que dans les rues de Chicago que sur les circuits routiers d'Indianapolis, ben, que ça lui donne le goût de conduire des stock cars, mais se mettre ensuite sur des circuits ovales. Puis de toute façon, il est ami avec Jimmy Johnson et avec Tony Stewart, qui à travers non seulement Stewart Haas Racing, mais aussi avec Mobile One. Ça pourrait l'aider aussi à le convaincre de participer à des courses sur circuit ovale, que ce soit pour quelques courses en Cup ou bien sur une saison complète, soit en truck ou en Xfinity, pour justement briser le tabou comme quoi les circuits ovales c'est dangereux et tout ça ou c'est plate. Ça peut être vraiment intéressant.
Oui, Romain Grosjean s'est adapté à ça. Au début, il ne voulait pas en faire. Finalement, il en fait. Mais bon, lui, c'est peut-être un peu l'exception.
Ouais, ça a pris une course à Saint-Louis pour changer d'idée. Alors, Et même Jimmy Johnson, j'ai été surpris qu'il fasse à sa première saison seulement des courses sur circuit routier pour ensuite faire une saison complète sur circuit avec les circuits ovales en participant à Indy 500 aussi. Parce que, mon Dieu, ses meilleurs résultats à Johnson en IndyCar, ben, c'était sur des circuits ovales, genre Texas et Iowa en plus. Donc, tu sais...
Oui, Texas, c'est un circuit qui peut faire peur.
Ah oui, parlez-en à Patrick Carpentier, Alex Taglani et compagnie, là.
Oui, le fameux Grand Prix annulé, là.
Ouais, donc moi j'ai hâte de voir Johnson en NASCAR, surtout que Kota va être très excitant avec Kimi Raikkonen, même Jordan Taylor qui va remplacer Chase Elliott qui s'est blessé dans un accident de, je pense que c'était de snowmobile ou bien de planche à neige, je me souviens plus, là. Mais ouais, j'ai très hâte de voir Button en NASCAR. Donc, et vous, est-ce que vous avez hâte de voir le champion du monde 2009 dans cette série? Laissez-le nous savoir sur toutes vos plateformes de podcast primaire, sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp, ainsi que sur la Monoplace, le groupe Facebook. Alors... évidemment, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Et évidemment, on se retrouve dimanche dans le cadre de l'après-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite disputé dans les rues de la corniche de Jeddah. Alors, très hâte de voir ce Grand Prix en espérant que tout se passe bien comparé à l'année dernière. Et je ne parle pas d'une frappe de... Évidemment, je parle de la frappe de missile le vendredi. Donc, ouais. Alors, Jean-Sébastien, un énorme merci de ta présence.
Merci, c'est un plaisir.
Donc, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve dimanche pour l'après-course et surtout, la semaine prochaine, parce qu'on va parler de la saison 5 de Drive to Survive. Salut tout le monde!